Essayer de voilà, pas parler trop fort. Avant de commencer, on va peut-être demander aux différents intervenants qu'on avait prévu de nous rejoindre peut-être sur scène, puisqu'on a des chaises à leur disposition. S'il en manque, je ne sais pas si on est à notre disposition. C'est pas grave parce que ça revient un petit peu au même. Les gens qui sont sur scène sont là pour parler comme les gens dans la salle, donc il n'y a pas de souci. Donc avant de commencer ce dernier moment de la journée, peut-être reparler un petit peu de qui l'a organisé et de pourquoi on l'a fait. Antoine et moi faisons partie d'un collectif qui s'appelle Élan pour un Open Data à Poitiers. Donc derrière le terme Open Data, ça, souvent voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. En fait, on milite pour ce qu'on appelle l'ouverture des données publiques. Alors c'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, qui n'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on avait eu l'idée d'organiser cette journée, dans le but de recontextualiser un petit peu ce qu'on fait, voilà, de parler de la donnée publique, de voir ce que c'était, à quoi ça ressemblait, ce qu'on pouvait en faire, quelles en étaient les limites, avec des petits ateliers pratiques, ludiques, pédagogiques assez simples. L'idée, ce n'est pas de faire de chacun un spécialiste de l'open data, forcément comme ça en une demi-journée. L'idée, c'est juste d'introduire un peu le sujet, en espérant que ça a été le cas tout au long de la journée, et donc de conclure cette journée par justement ce temps d'échange, qu'on n'a pas vu comme une conférence, même si on a des intervenants de qualité aujourd'hui, on les remercie d'être là. L'idée, ce n'est pas de faire une conférence, c'est vraiment un temps d'échange avec des questions. Donc si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Si vous n'en avez pas, on en posera à votre place, hein, ce n'est pas un souci. Tout simplement. Peut-être avant de commencer, juste peut-être faire un petit tour de table, de présenter un petit peu les différents intervenants.
Juste avant les présentations, je tenais juste à excuser Monsieur le maire qui est invité, qui nous a dit qu'il ne pourrait pas être présent aujourd'hui, et excuser aussi en même temps Claire Gallon de Liberty, qui devait être dans le panel d'intervenants, mais qui est souffrante aujourd'hui et qui est absente. Voilà, c'était juste pour les formalités. Juste avant qu'on commence les échanges, on va laisser les intervenants se présenter. Le défi en moins d'une minute trente chrono.
Chacun. Pas très compliqué. Amandine Brugière de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et donc on accompagne depuis plusieurs années les collectivités dans l'animation à faire autour de l'ouverture. Et on lance cette année en particulier une réflexion, enfin un petit peu exploratoire, sur ce qu'on a appelé l'infolab, c'est-à-dire les médiations à mettre en place autour de l'ouverture des données ou plus globalement de la data et de la manipulation de la data par un plus grand nombre de personnes que ça ne l'est aujourd'hui.
Ok. Waouh, la FING, c'est classe. Moi, je suis Florian Chileski, je suis membre de Code Rennes, le collectif Open Data de Rennes qui s'est monté il y a 2 ans à peu près.
Un an et demi,
enfin voilà. En termes de volonté, on a une association depuis septembre dernier seulement, en termes de vraie association. On essaye d'animer sur Rennes le côté citoyen, le côté simple participant finalement. Quelles sont les données, qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est quoi les pistes, tout un tas de questions, une réflexion qui n'est pas celle du fournisseur de données que va être l'État, mais le côté un peu utilisateur, que ce soit des gens plus sur la médiation numérique comme Léa, ou moi sur le côté très, très technique, puisque je suis développeur. Donc voilà, on a un tas de gens différents, un tas de profils, et on est ravis d'être venus là pour s'occuper notamment de faire un atelier avec les enfants. Donc je vais laisser Léa parler. Pour le coup.
Donc moi, effectivement, c'est Léa. Je viens de Rennes aussi et je fais partie donc du collectif Open Data Rennes. Donc moi, ce que j'aime bien dans la vie, c'est l'open data, effectivement, le travail sur les données, que ce soit l'aspect un petit peu technique. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui touche à la visualisation, la représentation des données et tout simplement l'utilisation de toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça donne? Jusqu'où ça peut être utile, peut-être un service pour d'autres personnes, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et puis on travaille également à expliquer un petit peu ce que c'est qu'une donnée, ce que c'est que l'open data et la représentation de données auprès de tous les publics, et notamment l'atelier qu'on vient de faire tout de suite avec les enfants, qui était le but était de leur montrer comment représenter une information avec des outils pas informatiques pour le coup, puisqu'on a utilisé des Lego et des feutres. Et donc voilà, pareil, je suis très contente d'être là avec nos collègues de Poitiers qui nous ont réservé un super accueil. Merci.
Samuel Goeta, ben moi aussi je vais remercier nos amis de Poitiers qui nous ont super bien accueillis. Et c'est toujours un plaisir de venir à Poitiers. Moi je suis un des administrateurs de l'Open Knowledge Foundation France. Donc on est le groupe français de la Fondation pour le Savoir Libre, qui est un réseau international qui promeut l'ouverture des données publiques, des œuvres culturelles et du travail scientifique. Donc ce qu'on entend par ouverture, c'est qu'elles soient réutilisables, qu'elles soient réutilisables aussi par des ordinateurs et qu'elles soient gratuites de préférence. Ça permettra de les réutiliser. Donc on est là pour promouvoir les utilisations des données publiques et expliquer que les données publiques sont utiles et que donc du coup, il faut promouvoir leur ouverture. Et sinon, la journée, je suis doctorant, je fais une thèse en sociologie à Télécom Paris Tech sur l'open data. J'étudie comment une organisation libère des données publiques. Qu'est-ce qui se passe quand elles prennent cette décision ? On peut dire libère.
En fait, c'est ta présence qui me fait dire libère.
Bonsoir, Simon Chignard. Moi, j'ai écrit un bouquin sur l'open data qui est sorti l'an dernier. Voilà, je suis rennais aussi, comme mes camarades. Et je participe à l'InfoLab avec la FING et puis il y a des trucs avec l'OKFN. Je suis partout.
Ouais, finalement,
c'était pas déjà un titre.
Donc voilà, alors juste un petit point avant de commencer avec les questions pour remettre un petit peu le contexte. Parce que finalement, on n'en a pas parlé. Notre collectif, il existe, enfin, du moins, on l'a créé. Parce qu'à Poitiers, l'ouverture des données publiques, ce n'est pas encore une réalité. Il y a des pistes. Nous, on y travaille puisque c'est notre mission. Cela dit, il n'y a rien de fait encore, que ce soit à l'échelle communale, au niveau de l'agglomération, du département ou de la région. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ici, on a un bon contingent de Rennais parce que c'est une ville et une agglomération où il s'est passé des choses intéressantes, qui servent un petit peu maintenant de modèle sur lesquels, voilà, qui permettent de travailler et d'avancer dans sur les autres territoires français. Donc c'est pour ça qu'on est bien content de les avoir aujourd'hui avec nous. On a aussi des gens du collectif qui vient de Tours. Qui sont un petit peu au même niveau que nous, voilà, en animation citoyenne, en faisant ce genre d'événement, en expliquant, sensibilisant sur la question, en espérant qu'il y ait des gens qui comprennent de quoi on parle et de faire avancer un petit peu la question de façon constructive avec les associations, les entreprises, les collectivités, les citoyens, puisque vous allez voir que c'est un petit peu, voilà, tous ces publics sont mêlés et sont complémentaires. Alors peut-être pour commencer... je suis désolé pour le premier qui va passer. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur ce qu'est l'open data, même si ça paraît comme ça un gros mot, sur ce qu'on entend par données publiques, voilà. Est-ce qu'il y a une question là, comme ça, a priori, déjà, pour commencer ?
Bonjour. En fait, c'est très simple. Je veux savoir, par rapport à l'info qui circule depuis quelques jours, comme quoi l'open data va être obligatoire, ce qu'il faut en conclure par rapport à quand est-ce que ça va être une réalité, dans quelles conditions ça va se faire.
Alors, du coup, peut-être avant de commencer, juste prendre le temps, 5 minutes, de rappeler un petit peu, peut-être, voilà, très ouais. Simplement, ce qui correspond un petit peu à cette démarche. Effectivement, on sait que ça peut devenir rapidement obligatoire. On en parle beaucoup en ce moment. Peut-être rappeler un petit peu de quoi il s'agit et juste d'en expliquer un petit peu les enjeux pour être sûr que tout le monde, qu'on parte sur les mêmes bases tous ensemble, qu'on perde pas des gens en route.
Ok, alors vous faites référence à un article qui est paru dans la Gazette des Communes il y a 3-4 jours, qui reprend la loi de modernisation de l'action publique qui est portée par Marie-Lise Lebranchu, qui est donc notre ministre de la modernisation de l'action publique, et qui stipulerait, donc c'est un texte de loi donc, qui aurait fuité via le Conseil d'État. Il est publié ?
Projet de loi de décentralisation.
Ok. Voilà, projet de loi de décentralisation, exactement. Qui voudrait rendre obligatoire l'ouverture des données publiques pour les collectivités territoriales et à tous les échelons. Et alors le texte est assez flou. Alors moi j'ai pas regardé le texte complet du projet de loi, j'ai juste lu l'article. En tout cas, il n'explique pas où vont être déposées les données, comment on va déposer les données, et surtout n'y a pas vraiment la question de quelles données on va libérer. Et c'est un enjeu important de savoir quelles sont les données qui sont peut-être les plus demandées avant de dire on va juste faire de l'open data, donc on va balancer trois fichiers qui sont faciles à libérer. Peut-être que déjà, il manque peut-être une réflexion sur quelles données vont être obligatoires. Il y en a une, par contre, qui est bien obligatoire et qui est stipulée dans ce texte, qui est celle du budget, qui est une obligation de transparence de base. Et là, il y a un enjeu important, c'est de savoir à quel niveau du budget on va pouvoir descendre. Si vous avez vu dans les étalages des journaux, il y avait un numéro de Marianne sur les fiscalités des collectivités territoriales. Et en fait, c'est très difficile d'entrer dans le détail des dépenses. Et ce qu'ils expliquaient dans Marianne, là, c'est que pour savoir vraiment ce qui se passe au niveau des dépenses, au niveau local, il faut venir sur le terrain et aller inspecter dans des fichiers, aller en mairie, aller voir. Et à mon avis, un des enjeux, ça va être de définir un standard, un niveau minimum de transparence dans les budgets de l'État, c'est-à-dire que dans les budgets des collectivités territoriales. Il y a des portails qui permettent d'accéder au montant du budget, à voir leurs différences, mais là, il y a un enjeu à aller plus loin, et à l'heure actuelle, ce n'est pas encore très déterminé.
Ouais, je voulais juste, parce qu'il a répondu à la question, mais il y avait aussi la question d'Adrien, je crois, de remettre un peu en contexte. Je vais remettre en contexte, ça va permettre de répondre aussi à la question, en fait, faire les deux. Open data, ça veut dire données ouvertes, et en gros, on parle de données déjà. On parle de données, on parle de données publiques, on parle de données ouvertes. Je vais juste faire un petite introduction là-dessus pour qu'on soit tous clairs. Après, je passerai la parole sans problème. Donc, en gros, les données, on ne s'intéresse pas aux documents, nous, on s'intéresse à des données. Si je vais dehors et j'ai dit il fait 12 degrés, c'est une donnée. Si j'ai dit il fait frais pour la saison, c'est déjà plus une donnée parce que c'est une interprétation. Si j'ai dit et demain il fera plus froid, c'est une prévision, donc c'est plus une donnée. D'accord ? Dans l'open data, on s'intéresse à la donnée. On ne s'intéresse pas à la maison, on s'intéresse à la brique qui sert à fabriquer la maison, bon, premier niveau. Ensuite, il y a des données qui sont publiques. Et ça, il y a une loi déjà depuis 1978 qui dit qu'il y a des données qui sont publiques. Public-privé, ce n'est pas au sens ce que je mets sur Facebook ou ce que je ne mets pas sur Facebook, c'est au sens, il y a des choses qui relèvent de la mission de service public et des choses qui ne relèvent pas de la mission de service public. Donc tout ce qui relève de la mission de service public, vous avez en France un droit d'accès et de réutilisation pour une partie d'entre elles. Donc aujourd'hui, j'ai tout à fait le droit d'aller voir ma collectivité et de dire j'ai besoin d'avoir accès à telle donnée. Je peux aller voir la mairie de Poitiers, c'est ce qui a été fait, pour dire je veux accès à la liste des prénoms qui ont été donnés à Poitiers en 2012. Bon. L'open data, ça va plus loin que ça. Et le projet de loi dont on parle, ce serait de passer des données publiques à la donnée ouverte. C'est-à-dire de dire, par défaut, il faut que les données produites, dans le cas d'une mission de service public, soient mises en ligne dans des formats et sous des conditions qui en permettent la réutilisation la plus simple. Voilà. Donc en gros, c'est des critères techniques, économiques, juridiques. Mais voilà, vous imaginez bien, technique, il faut que je puisse les traiter avec un ordinateur. Économique, il faut que ce soit plutôt gratuit. C'est quand même un point important. Et puis juridique, il faut y avoir une licence qui me permette de faire le plus de choses possibles avec. Voilà. Et donc ce dont on parle là, en fait, il y a déjà une loi sur les données publiques qui vous dit ce que vous avez le droit de faire avec. Et là, on parle d'une loi qui irait jusqu'à la donnée ouverte. Voilà. Donc c'est, je rejoins ce que dit Samuel sur le côté, c'est pas encore défini, c'est encore flou et tout. Mais c'est déjà un pas supplémentaire vers l'open data d'un point de vue marqué dans la loi. Quoi. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein. Le terme de données ouvertes n'existe pas dans un texte juridique français. Ça n'a pas de définition. Voilà. Hein, ce que je vous ai dit là, c'est le consensus qui dit que c'est ça une donnée ouverte. Mais il n'y a pas de texte qui dit c'est une donnée ouverte.
Juste, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir des données, parce que ce n'est pas forcément évident. Et pourquoi est-ce qu'on est tous des militants de l'ouverture des données ? Il faut replacer ça dans un contexte plus large de déferlement de données, en tout cas de production absolument exponentielle, algorithmique, etc. De données aujourd'hui liées à l'informatisation de l'ensemble des pans de la société, de l'économie, etc. Et que les conditions de production aujourd'hui et de réutilisation des données, des data en général, elles sont absolument obscures, opaques, et elles sont le fait, grosso modo, des entreprises plutôt. Enfin, c'est là plutôt que les choses se passent. Et aujourd'hui, elles se passent d'ailleurs plutôt à notre insu, puisqu'il y a une complète réutilisation des traces d'usage, des données personnelles qu'on laisse constamment sur les réseaux et sur nos outils, sur nos devices, etc. Et qui sont donc voilà, qui alimentent toute une économie, enfin qui créent de la valeur et qui alimentent toute une économie, et en particulier l'économie du net. On pourrait se dire c'est pas grave. mais quand même, on pourrait se dire quand même, voilà, ça serait bien que tout un chacun puisse réutiliser des données. Et la première démarche qu'on peut faire, en quelque sorte, c'est d'obliger à rendre ouvertes et publiques les données publiques qui constituent un matériau, on peut dire, enfin, grosso modo, on n'arrive pas bien à chiffrer, mais c'est grosso modo, on peut le dire, un cinquième de la production de la data dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est pas une goutte d'eau, mais c'est un peu plus que ça. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga, mais voilà, ça, c'est une première quantité de données. Voilà. Et si déjà on arrive à avoir ce réservoir-là de données ouvertes, accessibles à tous, ça permet qu'un plus grand nombre de personnes puissent faire des choses, puissent tirer profit des données. Mais sans doute, il ne faudra pas s'en arrêter là. Il y a encore voilà, beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Mais c'est pourquoi voilà, y a intérêt quand même à ouvrir les données. Et les licences permettent, si on gère et on accompagne cette ouverture des données, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas seulement une réutilisation par des acteurs privés, etc., commercial, puisqu'on sait que les acteurs publics se disent « zut, on perd notre valeur, notre patrimoine, on le brade, etc. » Alors c'est vrai qu'il y a ce côté-là, on l'ouvre, on le donne pour que d'autres le réutilisent, mais par les licences, on peut aussi s'assurer qu'il y ait un reversement au pot commun, c'est-à-dire que quand des données sont réutilisées et réenrichies, on pourrait exiger, c'est pas ce qui est fait aujourd'hui ou très peu, il y a l'agglo de Bordeaux qui le fait, mais voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Voilà, par les licences, on peut exiger que les enrichissements qui sont faits des données soient reversés au pot commun et donc participent à voilà, un accroissement et à une meilleure qualité des données ouvertes. Quoi.
C'est vraiment ce que ça me fait réagir de plusieurs petites choses. Il y a énormément de données effectivement, qui sont traitées principalement par des acteurs privés. Hein. Je pense que vous pensez, Simon a parlé de Facebook, mais il y a... On pense à Google, on pense à Apple, tout ça, etc. Il faut se rappeler que l'open data, par rapport à la loi de 78, ne concerne pas les données privées personnelles. C'est vraiment très important de se rappeler de ça. Hein. L'open data, c'est sur des données publiques non personnelles. Donc la protection de la vie privée, elle est bien prise en compte par l'open data, par tous les acteurs, en tout cas ceux de bonne foi. Je suis forcément des gens qui sont... Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose de très important. Une autre chose qui va un peu par rapport à l'informatisation, etc., par rapport à la notion de pot commun, etc., c'est que quand on a créé l'association, on s'est posé la question, est-ce qu'on va être politique ? On a répondu non, mais par contre, on serait partisan. Parce qu'il faut être honnête, quand on parle à l'open data, quand on parle d'open data, qu'on parle de données publiques, qu'on parle de service, enfin, mission de service public, on touche à l'État. Et on peut pas être neutre. Il y a forcément un moment où on se dit, la transparence, ça nous intéresse. On se pose des questions. Pourquoi est-ce que telle donnée, on ne l'a pas ? Pourquoi celle-là, on l'a ? Donc il y a un côté partisan. On ne peut pas s'en défaire. Voilà. Et donc ça pose énormément de questions. Et l'idée, pour revenir sur la question de base, sur qu'est-ce qu'on peut penser de l'ouverture obligatoire, c'est bien, il faudra continuer à être vigilant sur justement le côté flou. Est-ce que ça va être trois données gadgets ? Parce que les données gadgets, on en a plein, on ne sait pas ce qu'il y a de plus compliqué. Est-ce que ça va aller plus loin ? Et comment est-ce qu'on va les obtenir ? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que dans les administrations, il y a des données, elles sont utilisées, elles sont formatées pour un usage, avec des commentaires qui ont trait à l'usage qui en est fait, qui ne peuvent pas être libérés. Si par exemple il y a, je sais pas moi, une fiche qui correspond à une personne, on peut en faire des statistiques. Il faut pas livrer la fiche. Donc oui, mais il y a du travail clairement. Et c'est aussi pour ça que le collectif est là. C'est pour ça qu'il y a que la FING, le Open Knowledge Foundation, et énormément d'autres acteurs sont là. Quoi.
Oui, j'arrive, Emmanuel.
Le micro arrive.
Oui, justement, est-ce que ces données donc à ouvrir, est-ce que c'est pas vu par les structures publiques comme un coût simplement de mettre à disposition ces données et comment faire pour que ce ne soit pas vu que comme un coût
Alors je vais commencer par répondre. J'ai un avis, on va dire personnel dessus, dans le sens où je vais tendance à considérer que les données produites par l'État, elles sont déjà produites, donc elles existent, elles ont déjà été payées, par nos impôts, de fait, puisque ce sont des fonctionnaires qui ont travaillé dessus, des logiciels qui ont été achetés par l'État, donc nos impôts, donc ils ont déjà été payés. Par contre, je pense qu'il est assez légitime de se poser la question quand même de la redistribution, de combien ça coûte. Est-ce qu'il ne faut pas justement une politique budgétaire qui aille avec, qui se dise, ben voilà, une partie de l'impôt, ça va là-dedans. C'est pas neutre. Personnellement, j'ai tendance à penser que quand même, les données, on les a déjà payées. Et quand on sait clairement qu'il y a des cas où les données sont données à des entreprises privées qui derrière les revendent à l'État, on se dit qu'il y a, ouais, il y a peut-être un problème et il faut faire attention à cette notion de coût. Après, comment est-ce que les politiques le voient ? Je ne suis pas un politique, malheureusement. En tout cas, pas aujourd'hui. Et donc, je vais laisser les autres répondre sur ces, sur ces problématiques-là, peut-être.
Non, mais moi, ce que je dirais aussi, c'est que souvent, on associe Open Data à portail Open Data, alors que ce n'est pas, pas indispensable. Portail Open Data, c'est la, la grosse structure qui va permettre d'avoir énormément de fichiers. Et moi, il y a quelque chose qui me chiffonne toujours, c'est que quand vous regardez un portail Open Data, on va afficher un gros nombre avec le nombre de fichiers qui sont en ligne. Alors que si vous regardez sur data.gouv.fr, qui est le site gouvernemental de libération de données, il y a 300 et quelques mille fichiers, qui sont en fait un saucissonnage des fichiers de l'INSEE, qui fait qu'en vérité, il y en a entre 8000 et 10000, mais la France se targue d'avoir 300 000 fichiers. Je trouve que c'est assez néfaste, parce que pour maintenir un site avec 300 000 ou 8 000 ou 10 000 fichiers, ça demande des compétences techniques, ça demande une équipe, et c'est pour ça qu'il y a 7 personnes qui travaillent à plein temps auprès d'Etalab, qui est une mission rattachée au Premier ministre en charge de l'open data. Moi, je pense qu'il y a une évolution qui va arriver. Ce mouvement open data, ce n'est pas quelque chose qui va s'éteindre du jour au lendemain. Je pense qu'avoir une section data sur son site web, c'est quelque chose qui va être un réflexe. Parce qu'on ne peut pas communiquer et ne pas communiquer aussi les données qui vont avec. Chaque entreprise dispose d'un rapport annuel, en tout cas les grosses entreprises en ont un. L'Espace Mendès France, par exemple, a un rapport annuel, j'imagine, dans lequel il y a des chiffres. Et dans ces chiffres, on peut retrouver le fichier qui a permis de créer ces chiffres, ces tableaux. Et en publiant juste ces tableaux, c'est un geste de transparence, mais c'est juste un geste de bon sens. C'est l'idée qu'en publiant un rapport, on peut aussi essayer d'avoir un autre angle sur ce qui est communiqué. Et moi, je pense que c'est une démarche qui est saine, qui est simple et qui invite aussi le citoyen à s'impliquer dans le fonctionnement des structures qu'il finance et auxquelles il participe et qui sont des objets qui appartiennent aux citoyens et à la collectivité. Donc on doit avoir un minimum d'informations sur elle et le service communication n'est pas détenteur d'une partie de la vérité. Il faut que les citoyens aussi puissent s'impliquer dans le fonctionnement de ces institutions.
Non, sur la partie coût, deux trucs. Samuel l'a dit, le portail, c'est pas obligatoire non plus. Vous avez la ville du Mans qui a une page sur son site avec quelques fichiers en open data. C'est un premier pas, que ce soit l'idéal, je ne suis pas certain non plus. La ville de Sablé-sur-Sarthe aussi, pour parler de choses qui se passent dans l'Ouest. Il y en a d'autres. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un coût. Il ne faut pas se cacher les choses. Hein. Un fichier, c'est utilisé... l'open data, c'est réutilisé. Mais à la base, un fichier, il a une utilisation avant d'avoir une réutilisation. Donc, passer de l'un à l'autre, ben, parfois, ça veut dire aller travailler le fichier, dire, bah, tiens, il y a des trucs où il y a des données personnelles dedans, donc il faut virer la partie sur les données personnelles. Enfin, il peut y avoir un travail quand même. Donc, effectivement, il y a ça. Mais je voudrais prendre le contre-pied aussi. Je pense que si dans 5 ans, on considère que l'open data, ça doit être un service dit administration, un peu en gros comme aujourd'hui, tu peux demander... tu payes tes impôts en ligne, demain tu demanderas ta carte grise en ligne. Si un jour on dit ben, l'open data c'est un truc comme ça, en fait moi je pense qu'on aura loupé quelque chose si ça devient juste un service en ligne en plus. Je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on dise aux collectivités il faut faire ça comme de la même manière, il faut faire tel autre truc ou tel autre truc ou tel autre truc en ligne. Parce que si ça devient juste un service en plus, ça veut dire qu'on aura loupé l'ambition du truc et l'ambition de l'open data c'est pas tellement d'ouvrir les données, c'est d'ouvrir les organisations. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il se passe quelque chose avec mes données. Ce n'est pas simplement je te les mets en ligne, c'est qu'il y ait des gens qui les prennent, qui les réutilisent, qui inventent des choses avec, qui éventuellement viennent questionner les choix que tu as fait à partir de ces données-là. Si on en fait juste un truc en plus, en gros, de dire ah ben, c'est peut-être un effet de la loi d'ailleurs. Si la loi, ça arrive juste à dire ah ben, fais chier, il faut aussi que je fasse un portail open data, on aura loupé un truc, quoi. L'ambition, ce n'est pas ça.
Et juste pour compléter ce que dit Simon, c'est vrai qu'il y a toute cette partie de participation et de collaboration et d'enrichissement des données qui est un pan qui n'est pas beaucoup vu, alors qu'on le voit rien que sur les questions de cartes, qu'il y a des petites communes qui n'arrivant pas à se payer les cartes de l'IGN sont passées par des actions de crowdsourcing qui leur permettent de reconstituer complètement leur carte. Et on peut imaginer que par ces formes-là de crowdsourcing, c'est-à-dire d'enrichissement par les foules, enfin de coproduction de la donnée, on ait des systèmes d'enrichissement, d'élargissement, de coproduction d'autres données que l'acteur public n'a pas, ou à un moment T, alors qu'elles peuvent être mises à jour, enrichies, etc.
Et juste pour peut-être terminer sur cette question-là, ouvrir des données, c'est pratique pour une organisation. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en ouvrant des données, il y a un usage qui est très fréquent. C'est juste des gens, par exemple, à Rennes, qui sont des fonctionnaires de la ville de Rennes, qui vont réutiliser les données de leurs collègues. Parce que jusqu'alors, c'était compliqué, on ne savait pas qui la faisait, et il fallait appeler, demander, retrouver le fichier. Et il y a énormément d'usages de l'open data qui sont à l'intérieur des administrations, parce que c'est extrêmement pratique.
C'est même le premier effet bénéfique observé.
Là-dessus, ils sont tous d'accord. Ça a été hyper pratique pour les agents. Et bah déjà, c'est une bonne chose s'il y a ça. Et l'autre aspect, c'est que ça permet d'améliorer la qualité des données. J'avais un peu discuté avec les gens de Rennes. Ils se sont rendus compte, par exemple, que les bornes de vélo, je ne sais plus comment ils s'appellent à Rennes, les Vélostars. Voilà, les Vélostars. Ils se sont rendus compte que dans leur fichier, il y avait une borne qui était 200 mètres plus loin que ce qu'ils avaient prévu, parce que ça arrive quand on entretient un fichier, c'est pas forcément parfait. Et ça demande aussi d'accepter le fait qu'une donnée n'est pas parfaite et d'avoir une possibilité que le citoyen puisse dire en fait, là, il y a une erreur, vous pouvez la corriger. Et je pense que cette boucle de rétroaction est un des bénéfices de l'open data qui est quasi immédiat.
Et donc du coup, effectivement, il y a un coût qui existe, faut pas le nier, mais il est payé d'une part, et il est payant, il rapporte quelque chose, que ce soit d'un point de vue économique ou simplement parce que grâce à l'action de la modernisation de l'État, et l'open data permet de se poser des questions sur la modernisation, etc. Donc oui, il y a un coût, mais c'est pas juste un coût. Et donc j'espère vraiment que les politiques vont pas juste le voir comme un coût.
Peut-être juste une remarque. Je pense que, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Je crois que pour aujourd'hui, le plus grand coût dans les collectivités, surtout les plus grandes, c'est le non-partage des données. Et je crois que l'open data pose vraiment cette question-là. Donc je ne pense pas que ça sera un coût supplémentaire. Le problème, c'est que quand je suis, notamment des régions aussi qui travaillent sur l'open data, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer par cette étape-là, ce n'est pas une critique, ça ressemble à une opération vide-grenier. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui passe dans les services et qui dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Et je crois que c'est bien déjà. Le problème, c'est que ça sera plutôt une économie dans la mesure où on considérera la donnée dans son cycle de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on produit des données, il y a un cycle de vie de production de la donnée et dans une étape de production de cette vie de la donnée, il y a la mise à disposition. Et donc, dans la manière de la structurer, de faire les schémas de données d'entrée, on arrivera, je crois, et là, il va y avoir une vraie économie. C'est-à-dire que moi, je crois qu'au contraire, l'open data, ça va être un moyen d'optimiser le fonctionnement des collectivités, y compris les administrations. Deuxième point, peut-être un point d'État, où je pense que l'État, pour l'instant, n'a pas réglé un problème qui est très vieux, puisque tous les contentieux viennent de là, c'est notamment sur les organismes comme l'INSEE, l'IGN et d'autres choses, c'est la partie de la donnée dite publique et celle que ces organismes produisent sur leurs propres fonds. Et là, il y a quand même une grande hypocrisie de l'État, tout gouvernement confondu, c'est de dire... Je ne vous donne pas les moyens complets pour fonctionner et vous avez le droit de produire les données sur des commandes. Et le problème, c'est quand j'interroge l'INSEE, c'est qu'est-ce qui est produit dans le cadre de sa mission d'entrée et qu'est-ce qui est produit sur des commandes. Et là, il y a un jeu un peu hypocrite. Je pense que côté État, il va y avoir un travail à faire aussi de définir mieux qu'est-ce qui sera vraiment la donnée publique de ces organismes qui sont quand même des énormes producteurs de données. Avec un risque, puis j'arrête, c'est que si on les définit trop, il y a aussi le risque qu'elle passe sur le mode des marchés publics. Parce qu'à la rigueur, je veux dire, si je définis très bien ce que tu dois produire, toute une partie de données que je produis, à la rigueur, il faudra que je la mette en concurrence. Enfin, je crois qu'il y a aussi ça dans les chantiers, mais je ne crois pas que ce sera un coût à terme supplémentaire pour les collectivités.
Ouais, je voudrais juste rebondir sur pour ce qui a été dit sur les histoires de coûts. Parce que j'ai bien aimé la remarque de Florian, effectivement, c'est... On peut imaginer que c'est un coût, mais effectivement, il y a des choses qui sont déjà payées, qui sont déjà faites, donc autant les réutiliser. Et d'autre part, ça peut être payant. Du coup, moi, j'avais une question. Voilà, je fais comme si j'étais assis dans la salle. Je voudrais juste savoir si l'un d'entre vous a un exemple de réutilisation pour lequel un peu toutes les parties concernées ont été gagnantes, que ce soit la collectivité, des citoyens en forme d'usager. Voilà, est-ce que vous avez des exemples concrets qu'on peut donner comme ça pour expliquer qu'effectivement, à court terme pour la collectivité, ça peut être un coût, mais à long terme, il y a quand même des gains pour beaucoup, voire tout le monde.
L'exemple que j'ai en tête tout de suite là maintenant, c'est le plus simple, le plus bateau. C'est à Rennes, on a une application Android qui s'appelle Transport Rennes. C'est tout bête, hein, c'est les horaires de bus. Ben, c'est une donnée qui est produite par une mission de service public, le réseau de transport. C'est pas Keolis qui a développé l'application, ça lui a rien coûté. Ça marche pour ses usagers. Ses usagers sont contents. Ils ont l'information tout de suite sur leur téléphone. Eux, ils améliorent leur source de données avec le temps réel. C'est réutilisé par le développeur, etc., etc. Donc, à partir de quelque chose qui effectivement leur a coûté de l'argent, il y a un nouveau service qui est créé concrètement et qui sert à leurs usagers. Et je me rappelle d'une des phrases du directeur ou d'un des enfin, je ne me rappelle plus du titre. Chez Keolis qui nous disait « Moi, mon intérêt, c'est les usagers. C'est qu'est-ce que ça apporte à l'usager. » Et là, c'est un cas où cette application apporte quelque chose aux usagers quoi, et n'a pas été payée par la collectivité. Donc, c'est un exemple.
Moi, j'ai un contre-exemple.
Toujours bien.
Le ministère de l'économie, je crois, a un service qui collecte en tous les jours tous les tarifs pratiqués dans les stations-service de France. Qui est un fichier extrêmement intéressant, ça vous dit précisément. Alors, à la base, il le collectait pour le suivi des problèmes de concurrence, c'est-à-dire être sûr qu'il n'y ait pas des cartels ou qu'il y ait des gens qui se mettent d'accord entre eux. Ta, 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 ta. Bon. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, il y a des tiers, des réutilisateurs, ont dit je voudrais pouvoir réutiliser ces données-là. Donc, on est bien dans la réutilisation. Ce n'est pas l'utilisation, c'est la réutilisation. Et ce fichier fait partie des derniers fichiers, enfin, pas dans les derniers, mais en tout cas de ceux sur lesquels il y a toujours la même polémique qui revient tous les mois. C'est un fichier qui est vendu 32 000 euros. Donc, et l'explication des 32 000 euros, c'est que je crois qu'il y a deux ou trois personnes qui peuvent se le payer, qui sont en gros des gros services web qui le remettent après en ligne, moyennant publicité pour les usagers et tout machin. Et que ça permet de couvrir les coûts plus ou moins de collecte de la donnée et tout machin. Bon. Et moi, cet exemple-là, à chaque fois, il m'interpelle parce qu'on est typiquement devant une donnée où le bénéfice social de l'ouverture serait beaucoup plus important que le bénéfice économique de sa fermeture. Je vais le dire autrement, mais en gros, qu'est-ce qui compte là-dedans ? C'est que tout un chacun soit capable de choisir la station-service où l'essence est la moins chère. Surtout dans ces périodes de disette économique, c'est quand même là qu'est l'objectif. Quoi. Et en fait, nous, on se retrouve dans un système où finalement, la donnée est payante parce que effectivement, on cherche un bénéfice, enfin un bénéfice, non, on cherche à couvrir des coûts tout de suite, alors que si elle était ouverte gratuitement, eh bien, la donnée, vous l'auriez sur un maximum de supports et vous pourriez y accéder beaucoup plus facilement. Et je pense que nos efforts devraient porter, en tout cas, parce que c'est. Enfin, après, je ferai une autre remarque. Nos efforts devraient porter sur ce genre de données-là où on dit OK, il y a bien un coût aujourd'hui, mais le bénéfice social global de cette donnée-là, il est extrêmement important. Ça, c'est pour les transports. Il y a un deuxième exemple, c'est dans les histoires de logement. On en avait déjà parlé avec Samuel, on s'est retrouvé dans une table ronde il n'y a pas longtemps à Paris là-dessus. Toutes les données autour du logement, c'est pareil, c'est des bases de données qui sont extrêmement coûteuses, alors que ça fait un vrai sens. La base de données des pharmacies ouvertes le dimanche dans une ville comme Paris, ça vaut 2000 euros. On est typiquement devant des trucs où on dit ça n'a pas de sens socialement. C'est des données qui prennent de la valeur sociale à partir du moment où elles sont partagées, pas à partir du moment où elles ne sont accessibles qu'à certains qui peuvent se permettre de. Voilà. Et la dernière remarque, c'était qu'on a parlé beaucoup de l'État. Je trouve ça toujours assez marrant qu'on soit dans la philosophie de l'open data, décentralisation, collaboration, coopération, et qu'on passe toujours autant de temps à discuter de l'État et à attendre de l'État qui fixe le cap ou qui fixe des règles. C'était juste un point d'étonnement.
Je voudrais rajouter quelque chose sur le coût. Alors, le coût au sens large, dans le sens où aujourd'hui, on est dans une ère numérique et en plus, on a rejoint l'Europe. Et l'Europe, c'est une nouvelle législation qui va en fait vachement travailler sur la mutualisation, puisqu'elle a plusieurs pays. on va dire, à gérer, même si je n'utilise pas les bons mots. Et donc, du coup, elle va falloir qu'elle fasse des évaluations. Et donc, elle demande à tous ces pays de numériser une partie des données. Donc, ça, c'est fait. Donc, le coût, bah, voilà, ça a coûté. Mais en fait, ça va servir qu'à l'Europe. Pourquoi ça ne peut pas servir à d'autres gens? Donc, il y a une loi, enfin, un projet qui s'appelle INSPIRE, qui oblige, en fait, toutes les collectivités, enfin, toutes les dimensions qui s'occupent de nous, à mettre à disposition toutes les données géographiques qui vont avoir déjà existantes. Et ils ont juste rajouté la phrase aux partenaires. Donc, du coup, il faut montrer patte blanche comme quoi je suis moi aussi une collectivité ou moi, enfin, un partenaire potentiel. Et il y a une collectivité française qui a dit oh, bah, je ne vais pas m'emmerder à gérer des mots de passe. Et donc, ils ont fait de l'open data sans le savoir. Et du coup, on a un coût de fabriquer ces données. On a aussi le cadastre, par exemple, vous savez, toutes les parcelles qu'on achète et qu'on vend sur les terrains. Bah, pareil pour l'Europe ou pour je ne sais pas trop quoi, elle est numérisée, c'est-à-dire elle est transformée en données numériques. Avant, on avait des planches, il fallait des crayons, il fallait tout ça, donc ce n'était pas facile à distribuer. Aujourd'hui, avec le numérique, une fois qu'on l'a mis en numérique, ça ne coûte quasiment rien de le mettre à disposition. Alors on va nous dire, ah ben si, ça coûte parce qu'il faut que je fasse un site web. Ben, trouvez-moi une commune de plus de 10 000 habitants qui n'a pas déjà un site web sur lequel il peut mettre un fichier joint sur une page. Donc le coût, en fait, il est déjà énorme. Et peut-être que justement, on le rentabiliserait en ouvrant toutes ces données qui existent déjà et qui sont déjà numériques et qui n'ont pas de coût de copie et de distribution.
Oui, bah c'est une précision qui va dans ce sens-là. Donc moi, je m'occupe du SIG à la communauté d'Aglo. Je pense que, en fait, ce dont il vient de parler, la directive INSPIRE, pour être clair, ça oblige les collectivités à mettre à disposition leurs données d'environnement. Alors, c'est vrai que les données environnementales, quand on y regarde bien, ça correspond à, en gros, 80% de ce qu'il y a dans notre SIG, puisque ça inclut l'urbanisme, ça inclut... Alors, l'intérêt, je crois, par rapport à ça, c'est que les collectivités sont toutes en train de se préparer à cette obligation, techniquement, parce que quand on parle de coût de données, c'est le coût de mise à disposition. Et dans ce coût-là, il y a effectivement une certaine complexité technique et on ne peut pas mettre n'importe quoi sous n'importe quelle forme et on ne peut pas mettre une donnée sans expliquer ce qu'il y a, quelle est cette donnée, quelle est sa qualité. Donc ce travail-là, il est en cours dans les collectivités. Je pense que c'est intéressant pour les gens de l'open data de peut-être s'appuyer là-dessus pour permettre aux collectivités de développer des projets open data. Parce que pour l'instant, il y a une obligation.
Ce qui est en train de se passer est plutôt l'inverse. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est plutôt des gens qui essayent de mettre en place la directive INSPIRE qui disent au fait, il y a l'open data, les gars, il faut qu'on y aille.
Non, mais c'est ce que je dis.
Voilà.
Je
pense que c'est plutôt. Enfin, je veux dire, les choses se prennent dans ce sens-là.
Non, par rapport au problème. De toute façon, il y aurait eu open data ou pas, les collectivités étaient obligées d'y aller.
Oui.
Donc je pense que par rapport à votre problématique de coût.
Oui.
C'est intéressant de savoir que les collectivités se préparent à mettre à disposition.
Oui. C'est une notion de mutualisation.
Mais je veux dire, ça veut dire que techniquement, elles vont être prêtes.
Oui.
Et que notamment, les budgets pour gérer les serveurs, pour peut-être pas, parce que c'est quand même des horizons, je ne sais plus si c'est pas 2018 ou quelque chose comme ça, la vraie obligation, mais elles sont toutes en train de s'y préparer. Ben, Rennes, je pense qu'ils sont déjà là-dedans.
Oui.
Donc voilà, ça veut dire qu'après, on va mettre des données environnementales du SIG, mais sur un serveur comme ça, on peut effectivement mettre tout type de données.
Oui, oui. Non, mais ce que je voulais souligner juste, c'est que ce qui fait aussi l'originalité du mouvement Open Data, c'est qu'il y ait des tiers, même s'ils sont un peu nombreux, qui s'emparent du sujet et qui réclament l'ouverture des données sur des territoires. Enfin, l'exemple ici me paraît assez intéressant aussi, mais ça a été le cas à Nantes aussi avec l'action de Claire Gallon et Libertique. Mais je n'ai pas encore vu de lettre ouverte de citoyens qui réclament la directive INSPIRE.
Non, mais absolument.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant parce qu'on a une approche du sujet réglementaire. Et puis après, à côté, en parallèle, même si ça peut se rejoindre, je suis d'accord avec vous, on a une approche qui se veut plus société civile, même si évidemment, ça reste société civile qui sait manipuler un ordinateur.
Non, mais ce que je dis simplement, c'est que par rapport notamment au problème de coût et de préparation des organisations,
il y a
un pas qui est fait en avant. Mais c'est vrai que répondre à la directive INSPIRE, ça n'a rien à voir avec avoir un projet, je dirais, citoyen ou économique par rapport à l'utilisation des données. C'est complètement différent.
Oui, ça me fait réagir aussi sur ces deux angles de vue. Parce que nous, du côté collectif Open Data, le côté citoyen, en fait, nous, on rappelle un truc, c'est que c'est bien d'avoir des serveurs, des normes, etc. Sachant que je tiens à souligner que pour le SIG, alors c'est à chaque fois que je regarde la partie SIG des données, généralement, c'est particulièrement bien fait. J'ai appris que le SIG est une science depuis pas mal d'années, en siècle, je crois, tout ce qui est cartographie. Donc il y a déjà des normes, un tas de choses. Il y a déjà du matériel, il y a déjà c'est possible. Nous, ce qu'on remarque aussi, ce qui est important, et peut-être la valeur ajoutée d'un service open data en tant qu'une personne responsable avec d'autres gens, c'est l'animation. Et ça, les données, nous, on peut. Moi, du côté technique, les données, je peux en prendre, je peux en traiter, je peux faire un analyse, tout ça. L'animation, c'est un truc qui dépasse la machine, qui dépasse largement avoir un serveur, un portail, une page, n'importe quoi.
Justement, tu parles des données. Je trouve qu'il y a un problème aujourd'hui sur. Moi, je ressens un problème sur l'open data, c'est cette structure de données. Aujourd'hui, il n'y a aucune structure qui est mise en avant, qui est déposée, il n'y a pas de gabarit, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. La mairie de Poitiers, par exemple, a mis le conseil municipal, les comptes rendus, le conseil municipal en ligne, ils ont mis des PDF en ligne. Donc j'ai voulu voir un peu ce qui se faisait dans les collectivités qui faisaient la même chose. Et en fait, j'ai vu des fichiers CSV, donc déjà c'est plus simple, évidemment, s'ils faisaient de l'open data, donc on peut les exploiter. Mais aucun fichier n'est monté de la même manière. Donc aujourd'hui, on parle d'économie d'échelle aussi grâce à l'open data, mais tant qu'il n'y aura pas de gestion, de mise en avant, de gabarit technique sur la structuration des données, on va avoir un souci. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est vrai, qui fait partie de la problématique? Est-ce qu'il y a des solutions qui, selon l'open data, on parle de la France, mais c'est quand même quelque chose qui se passe au niveau mondial. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent sur ça?
Alors là-dessus, faut distinguer deux types de données publiques. Il y a des données qui ont été faites par les organismes qui produisent de la donnée comme leur première activité, leur activité de base. Donc je vais vous en citer quelques-unes, l'INSEE, l'IGN, Météo France. Tous ces gens-là, ils ont l'habitude de coopérer de manière internationale, d'échanger des données, parce que c'est leur travail de base. Et eux ont des organismes aussi qui sont en charge d'harmoniser, de créer des standards et des gabarits. Et ça, c'est quelque chose qui est assez ancien. Leurs données sont quand même diffusées. Si on veut la météo dans 7 jours, on y a accès. Après, on ne peut pas forcément la réutiliser. Par contre, ce qui est de nouveau dans l'open data, c'est pour ça que c'est un mouvement qui est à la fois très ancien et très récent. Et qu'il faut. Et en fait, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Mais c'est les données qui sont produites par des agents du service public, comme monsieur, qui fait partie du SIG et qui donc a des données géographiques. Et ces données, jusqu'alors, on n'avait pas pensé à les publier et à s'échanger de manière très informelle. C'est-à-dire qu'on appelle le producteur de données, on lui envoie un mail, et il vous dit « je les ai produites de telle manière, donc fais attention, regarde qu'elle a été faite comme ça ». Et il y a plein de cas de ce type de données. Par exemple, c'est un cas que je cite souvent, c'est à Rennes, et c'est Simon qui m'avait indiqué ça. Si vous regardez dans une base de données des horaires de bus, il y a des bus qui passent à 26h30. Pourquoi ? Parce que c'est la même journée de travail pour les agents qui sont employés par l'organisme qui est en charge des transports.
Et il y a aussi une autre raison, excuse-moi, je fais juste ce rapport-là, mais quand un bus il est marqué à 24h12, c'est pas simplement parce que c'est le même chauffeur qui fait le service, c'est aussi parce que vous, quand vous arrivez devant l'arrêt de bus, quand vous regardez que vous êtes vendredi soir, et ben à minuit 12, vous êtes encore vendredi soir, vous n'êtes pas encore samedi matin. Donc vous regardez, il y a un bus qui passe à 22h30, 23h, minuit moins 10, minuit 12. D'accord. Voilà. Donc c'est juste ce côté-là, un peu le. C'est penser usager, en fait. Voilà. C'est pas penser réutilisation.
Ça me rappelle quand j'étais gamin, il y a un jour, je crois que j'avais 8 ans environ, je me suis rendu compte qu'en fait les journées ne commençaient pas à 8h du matin, mais qu'elles commençaient à minuit. Et pour moi, il ne se passait rien à minuit. Voilà, juste pour dire ça. Depuis, c'est l'inverse. Voilà. C'est comme quoi la vie. Mais juste pour revenir là-dessus, donc les données, elles sont créées par des agents et elles sont créées en fonction d'un usage. Les données du SIG, elles sont créées pour, par exemple, pour les jardins, pour entretenir les bancs, le mobilier public. Et donc elles ont un usage. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très récent. Donc si on veut arriver à une harmonisation, il ne faudrait pas non plus que ce soit de manière très brutale et de dire maintenant, les fichiers d'état civil, ils vont être faits comme ça, les fichiers de SIG vont être faits comme ça partout en France. Parce qu'en fait, on va casser les usages qui sont déjà existants et on ne va pas permettre de réutilisation. Donc je pense qu'il y a une dimension importante dans l'open data qui est de demander des données brutes. Alors le terme de données brutes, il est hyper critiquable et je m'y emploie jour et nuit à le critiquer. Mais quand même, il implique une idée qui est qu'on demande en fait à l'agent de faire le moins d'étapes possible pour modifier sa donnée. Ce qui, en vérité, n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, on lui demande de faire le moins de travail. Et je pense qu'après, il y a plusieurs questions de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. On a organisé un barcamp, un petit atelier à Paris la semaine dernière avec Claire, qui n'est pas là, de Libertic, pour l'ouverture des données des petites communes. Et on va faire une initiative pilote dans un village des Landes qui s'appelle Broca. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire pour que toutes les petites communes se mettent à faire de l'open data. Et du coup, en fait, toutes structurent leurs fichiers de manière différente. Et en gros, il y a plusieurs solutions. Soit on leur impose des structures type, et donc on va changer complètement leur manière de travailler. Et du coup, l'open data, ça va être la pire des punitions. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est faire un peu ce que fait OpenStreetMap. Ils reprennent des bouts de cartes IGN qui réapparaissent dans le système de cartographie de Microsoft et eux les refont. Vous allez les voir là-haut, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils en refont des standards communs qui sont même internationaux. Et en fait, en demandant à cette espèce de masse cognitive qui a un peu de temps pour faire un petit bidouillage et qui va permettre de retransformer la donnée et de l'harmoniser, ben on arrive à faire des données harmonisées. Et la troisième chose qu'on pourrait faire, et en fait, ce dont on discutait ce midi, c'est que en fait, ce qui pourrait même arriver après l'open data, c'est qu'EtaLab devienne l'organisme qui va retransformer, retravailler les données, un peu comme ce que fait l'ONU, toutes ces instances-là, à qui on envoie des fichiers. Donc leur boulot, c'est d'avoir des fichiers, de dire, alors le PIB en Ouganda, il est calculé de telle manière, et le PIB au Népal, il est calculé de telle manière, donc on va harmoniser, et on va aller un peu à la louche pour donner, essayer de faire un fichier qui permettra des comparaisons. Donc en gros, il y a ces trois pistes-là, et il y en a une quatrième qui est juste de rien faire, et qui serait un peu dommage, parce qu'on a actuellement plein de fichiers, plein de nouveaux fichiers, des choses très, très, très intéressantes, et il y aurait plein d'usages, et je vais vous donner... Après, je vais peut-être lâcher le micro. Mais je regardais un peu ce qui vient d'être publié sur data.gouv.fr. Il y a un fichier qui s'appelle la cotation des légumes par marché, qui a des marchés d'intérêt nationaux, qui vient d'être publié par un organisme qui s'appelle France Agrimaire. Avec ce fichier, il est mis à jour maintenant toutes les semaines, on peut détecter une hausse hyper rapide d'une denrée dans les marchés. Et ça, c'est quelque chose qui peut intéresser énormément de monde. Par exemple, les gens que vous voyez dans les journaux télé qui renversent des tonnes de tomates devant les préfectures, tous ces gens-là, ils auraient besoin de ce fichier. Il y en a un autre qui est les aides à la presse. Tous les organismes de presse reçoivent énormément d'argent, c'est presque 1 milliard d'euros, je crois, par an qui est dépensé. Et là-dessus, un journal comme L'Humanité, la Cour des comptes les a un peu pointé du doigt quelques anomalies, L'Humanité reçoit 48 centimes par d'aide publique par numéro. Alors je ne dis pas qu'on devrait arrêter L'Humanité, c'est un journal qui a sa place dans l'histoire politique de la France, mais juste déjà, il y a plein de choses à faire avec ces fichiers-là, et aussi pour augmenter la richesse médiatique de la France. S'il y a 48 centimes qui partent à L'Humanité, on pourrait peut-être créer d'autres journaux, et L'Humanité pourrait peut-être disparaître et en refaire un autre. Enfin, des suggestions.
En tout cas, rien que je trouve que cette petite question, dès qu'on se penche un petit peu sur la data, sur la donnée, on se rend compte de la complexité du sujet. Et je pense que c'est quand même un des points qui est à soulever. C'est-à-dire qu'en effet, il y a cette problématique de format qui n'est absolument pas résolue aujourd'hui. Après, il y a la structuration plus large, un autre niveau du dialogue ou de l'échange qu'il peut y avoir entre les données. Et c'est ce qu'on appelle la sémantique. Et donc là, il y a tout un pan du web sémantique qu'il faut aussi sur lequel il faut se pencher et auquel sans doute il faut collaborer si on veut faciliter aussi les échanges, les mises à jour des données, un certain nombre de choses. Et après, c'est peut-être aussi là qui est véritablement le coût propre de la data, autour de ces problématiques de la data, c'est la culture de la donnée qu'il faut avoir derrière, parce qu'on voit bien que derrière la donnée brute, il y a toute une construction sociale, sociologique, etc., institutionnelle d'un, d'un relevé de données, et que ça, il faut savoir le comprendre, l'analyser, même l'apprendre à d'autres. Et il faut savoir aussi avoir une posture critique vis-à-vis de la manipulation qu'on peut faire d'un jeu de données. Enfin, on l'a vu de manière un peu médiatique avec le fast-checking là, qu'il y avait autour de l'élection présidentielle, où tout de suite les chiffres qui étaient amenés étaient analysés, critiqués, puis on analysait les sources. Voilà, je trouve que ça montre toute la culture de la donnée qu'il peut y avoir derrière, qui va être nécessaire à tout un chacun, enfin je veux dire des agents des collectivités territoriales, de l'État jusqu'à nous-mêmes, et qui questionnent parce que c'est une culture qui est difficile, qui demande facilement un bac plus 5 ou un bac plus 10. Et qui donc il va falloir se demander comment est-ce qu'un plus grand nombre de personnes et un plus grand nombre d'organisations, il ne s'agit pas seulement de citoyens, c'est comment est-ce que des PME, des TPE, des associations, des petites organisations vont être en mesure de gérer les actifs qu'ils ont, parce qu'on a tous des données en fait, enfin, en tout cas en tant qu'organisation, comment est-ce qu'on va être capable de les gérer, de les analyser, de les articuler avec les données publiques, avec plein d'autres choses pour en tirer... une meilleure connaissance, un meilleur positionnement, une analyse critique du fonctionnement de la société, des fonctionnements économiques, des marchés financiers, etc. etc.
Je vais dire un truc pas très gentil, je ne suis pas d'accord. Non, je vais juste réagir.
C'est le développeur statisticien de l'équipe. Voilà.
Je suis très mauvais en statistiques, mais c'est pas de souci. Non, c'est sûr, une petite chose, c'est la culture de données, c'est effectivement très important. Et oui, il vaut mieux que nos statisticiens, nos mathématiciens et nos chercheurs aient de bonnes études et un bon bagage. Mais la culture de données, on peut commencer à l'apprendre dès 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. On a fait un atelier aujourd'hui avec Léa là-dessus. C'est une introduction, c'est pas grand-chose. Mais ça montre que deux personnes qui ne sont pas du tout enseignants, enfin, Léa, tu n'es pas enseignante, moi non plus, hein, moi par l'informatique, voilà. On peut transmettre un savoir à des enfants, on peut leur dire une donnée, voici ce que ça peut représenter, grossièrement, hein, sans entrer dans les détails, sans avoir la critique sur la donnée brute, tout ça, même si c'est important. Leur dire, dans votre groupe, il y a combien de garçons, combien de filles, combien il y a de télé, combien il y a de personnes dans votre foyer. Et là, tout de suite, on se posait des questions. Mais on parle de télé ou on parle de réception de la télé, on parle de l'antenne, on parle de l'écran, enfin voilà. Et donc la culture de la donnée qui va avec cette partie critique, on peut la voir tout petit et on peut commencer à l'enseigner tout petit. Donc oui, il faut faire des grandes études. Non mais c'est pour ça que je suis pas d'accord, c'est pas vrai, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que la culture de la donnée, il faudrait commencer à l'enseigner beaucoup plus jeune aux enfants. Et ça pourrait leur servir pour plus tard. Et je sais que tu voulais réagir aussi. Non ? D'accord.
Je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par Amandine, sur ce rapport open data et juridique, parce que je pense qu'on parle de pédagogie, on parle d'économique, mais par exemple le rapport, pour partir sur une piste concrète, le rapport entre une licence Creative Commons et l'open data, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur ces aspects juridiques et la façon dont on peut accorder la complexité dont tu parles, et en l'occurrence le droit des citoyens, mais également de savoir le cheminement d'une donnée, et à partir du moment où cette donnée est réinterprétée, parce que je crois que c'est aussi ce dont on parlait, est-ce qu'il y a un pourcentage encore qui reste de la data telle qu'elle était à l'origine et le traitement qu'on lui fait soit subir, soit pour augmenter, pour rendre plus claires les données. Et donc juridiquement, sur quel cheminement s'appuient les promoteurs de l'open data d'un point de vue juridique ?
C'est la question juridique, je pense qu'elle est beaucoup moins complexe que ce qu'on imagine. Mais c'est toujours le propre du juriste aussi d'arriver à rendre les trucs plus compliqués que ça. Vous avez cité les licences Creative Commons et ça sert de socle, effectivement, en tout cas dans la compréhension de ce qu'on peut faire avec des licences open data. Maintenant, en France en tout cas, et dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, on n'utilise pas des licences de contenu de type Creative Commons, on utilise des licences de données. Et on a la chance, pour le coup, en France, que le paysage soit beaucoup plus clair depuis quelques mois maintenant,
Et vous avez deux choix. Vous avez la licence ouverte proposée par le gouvernement qui s'applique de facto à toutes les agences gouvernementales, mais pas aux collectivités. Et vous avez à côté l'Open Knowledge Foundation qui a fait un travail sur une licence qu'on appelle Open Database License, c'est ODBL. Et en gros, c'est les deux choix possibles, qui est, à mon avis, une excellente idée qu'il y ait deux choix possibles. La plupart des collectivités dont on a parlé sont parties sur des licences de type ODBL. Voilà. La différence entre les deux, c'est quoi ? Enfin, déjà, ce qu'il y a de commun aux deux, c'est que vous êtes obligé d'attribuer des données. C'est-à-dire, vous êtes obligé de dire, quand j'utilise une donnée, voilà sa source et voilà la date de mise à jour de la donnée que je vous présente. Donc, je ne peux pas utiliser une donnée de la ville de Poitiers sans dire source des données, ville de Poitiers, date de mise à jour, telle date. D'accord ? Ça, c'est l'obligation d'attribution ou de paternité, si vous voulez. Donc, si vous connaissez les licences Creative Commons, ça s'appelle CC BY. Voilà. L'ODBL rajoute au-dessus de ça la notion qui a été un peu évoquée tout à l'heure, sans qu'on dise le nom, mais de partage à l'identique, cette notion de pot commun. L'idée du partage à l'identique, c'est qu'en gros, de dire, voilà, exemple, ville de Nantes, qui a des licences ODBL, je vais prendre des données de la ville de Nantes et puis je vais les améliorer. Par exemple, je vais dire, tiens, dans ton fichier, je sais pas moi, des stations de vélo, il y en a une qui n'est pas bien positionnée, ou alors je vais en rajouter. Je vais ajouter des informations autour de ces données-là. Notion de pot commun, la licence me dit, il faut que tu remettes ces éléments-là dans le pot commun. Donc que tu redises à la ville de Nantes, voilà, j'ai amélioré ton fichier. Voilà le résultat. D'accord ? Et c'est ce qui, en licence Creative Commons, ça s'appelle CC BY SA, SA Share Alike, partage à l'identique. Voilà. Donc en fait, les choses ne sont pas si compliquées que ça, en l'occurrence. Et pour le coup, en France, on a la chance d'avoir le choix. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est vraiment, si vous connaissez l'architecture des licences Creative Commons, c'est assez limpide sur le choix. Voilà. Et après, c'est des questions purement politiques, pour le coup. Voilà. Donc. Alors, il n'y a pas de jurisprudence ni sur l'une ni sur l'autre. Donc, comme ça, on est d'accord et on est tranquille. Ah, mais non, il y a pas. La licence ouverte n'est pas plus fiable. Et pas plus. Comment dire ? Il n'y a pas eu aujourd'hui de mise en cause juridique devant des tribunaux, ni de l'une ni de l'autre.
Oui.
D'accord ? Donc, on ne peut pas dire que la licence d'État est plus fiable que l'autre. Les deux, il n'y en a aucune des deux qui a été confrontée au truc. Bon, voilà. Après, c'est des choix. Quand je redis, c'est des choix politiques. Alors, ah bah, il y a des sacrés soubassements politiques. C'est pas un hasard que la mission étalable du temps du gouvernement Fillon arrive une licence qui soit la plus libérale dans son essence. C'est pas un hasard que les collectivités qui partent sur des licences ODBL soient plutôt dans une logique plus participative, hein, cette notion de pot commun, que libérale. Après, je sais qu'il y en a autour de cette table qui seront pour autant dans le participatif, mais diront que le partage à l'identique, c'est une contrainte supplémentaire, donc ça n'est pas valable. Enfin, vous voyez le...
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des domaines de data qui sont plus sensibles que d'autres. On pourrait parler de la santé, par exemple, tout simplement.
Oui, mais là, vous rentrez dans un autre truc. La santé, il y a plein de données dans la santé qui ne sont pas des données personnelles. C'est le gros problème quand on parle de la santé, c'est qu'on dit que c'est des données patients. Bon. Je donne juste un exemple de données qui a été ouverte dans la santé au Royaume-Uni. L'équivalent de la caisse primaire d'assurance maladie a ouvert tous les fichiers de prescription, pharmacie par pharmacie, sur le pays entier, sur quelques classes de médicaments. Donc en gros, je peux avoir accès, je sais, que tel type de produit, il s'en est vendu tant dans telle ville ou dans telle autre ville. Là, est-ce que je suis dans une donnée, pour le coup, qui remet en cause la vie privée des individus ? Peut-être que je vais être capable de montrer que dans l'ouest de la France, on consomme plus d'antidépresseurs que dans le sud de la France. Alors oui, ça remet quelque part en cause la vie privée des individus, mais je ne serais pas capable de les... Vous voyez, de redescendre derrière. C'est pareil, pour le coup, en France, données personnelles, c'est la CNIL, et c'est la loi informatique et liberté, et c'est quand même, pour l'instant, encore une bonne frontière de l'open data, même si c'est en train d'évoluer. Et données publiques, c'est la CADA. Enfin, je veux dire, les choses sont pas. Je pense pas qu'aujourd'hui. Enfin, remettons-nous un peu. On est plusieurs à venir de Rennes. Là, Rennes, ça a ouvert en 2010. En 2010, il n'y avait pas la licence ouverte. Et à ma connaissance, l'ODBL était en cours de formalisation. Et donc, en cours de traduction. Je veux dire, on était à une situation où il fallait créer en plus une licence en se disant oulala, qu'est-ce qu'on met dedans, machin, machin. Donc, ça aboutit à une usine à gaz. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui une collectivité, quelque part, elle a le choix. Je veux dire, elle est pas. C'est un choix qui existe, qui est documenté.
Ce qui est pas mal. Moi, il y a un truc qui me fait tiquer, qui va peut-être un peu presque hors sujet, mais Que ce soit Creative Commons, enfin même surtout Creative Commons, hein, c'est une licence qui est basée sur le droit d'auteur. Et ODBL, etc., quelque part, un petit peu aussi. Et alors, chez moi, dans ma petite tête, le droit d'auteur, c'est par rapport à une œuvre. Là, on parle de données. Et alors, peut-être que ça élargit le sujet, et que voilà, mais se dire qu'aujourd'hui, on en est encore dans une réflexion de droit d'auteur sur des données, il y a peut-être des choses à réfléchir et à aller plus loin. Et c'est pour ça que je suis content qu'il y ait deux choix de licence, qu'elles soient vraiment sur les données, comme disait Simon. C'est important d'avoir une différence. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin d'un point de vue juridique pour dire le droit d'auteur, c'est sympa, mais il faut peut-être qu'on sorte de la logique du droit d'auteur, justement, pour aller vers quelque chose d'un peu plus... qui soit un peu plus cohérent.
Par contre, enlever la notion d'attribution, je pense que... Enfin, ne pas mettre du tout de licence, disons que tous les usages sont possibles. Je pense que ça existe. Voilà. Donc c'est Public Domain License, qui est difficile à appliquer en droit français. C'est pas ma spécialité. En tout cas, enlever la condition d'attribution, moi je pense que c'est quelque chose de très néfaste qui enlève, qui permet toutes les manipulations, qui est de dire voilà, on a des données sur ça, on vous dira pas d'où elles viennent, et par contre on peut vous montrer ça, on va montrer tel graphe, on sait pas d'où ça vient. Et en gros, je pense que c'est une logique néfaste vis-à-vis de l'open data.
Tu veux passer à d'autres?
C'est aussi, du coup, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre avec les délégataires de services publics, qui des fois peuvent dire non, ces données-là, elles sont de notre propriété parce que c'est nous qui avons créé la base de données, SNCF, puis Veolia, etc. Et pour le coup, ça, c'est lié à cette idée de droit d'auteur.
Ouais, et surtout, pour moi, il faut arriver à dissocier cette notion de droit d'auteur avec donc le droit d'utilisation. Et l'attribution, c'est-à-dire qui a généré la donnée, ça ne veut pas dire que c'est un auteur en termes de droit juridique, droit d'auteur. Tu vois, moi, il y a un truc qui me choque, quoi.
Oui, il y a aussi le problème de la donnée composite, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus, on travaille nous sur des projets où il y a la région, les départements et des communes qui coproduisent de la donnée. Et faire les conventions entre eux, je promets, on a mis deux juristes dessus. Mais là aussi, c'est la libération de ça, elle n'est pas simple à organiser.
Mais il y a des solutions. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau qui est des solutions juridiques. Je veux dire, on n'est pas... C'est pas le nouveau monde, quoi. Enfin, je veux dire, pareil, il commence à y avoir des ébauches de solutions. Elles sont pas parfaites et tout machin. Mais aujourd'hui, si on s'y lance, c'est quand même vachement plus simple de le faire maintenant. Ça n'a jamais été aussi sûr de le faire maintenant que ça ne l'a été avant. Et un dernier point, moi, on n'a pas trop parlé de ça, mais je voudrais juste en dire deux mots. Souvent, moi, je suis confronté à des gens, que ce soit pas mal d'entreprises d'ailleurs et des collectivités un petit peu moins, mais les deux, qui sont dans une logique de dire « je ne vais pas les ouvrir mes données parce que c'est comme ça que je vais les contrôler ». Vous avez l'exemple, alors la SNCF, ça a été le temps pour un cas, la RATP, ça a été encore pire, JC2CO, ça a été encore pire. Et on est toujours dans l'idée de contrôler, fermer ma donnée, c'est le meilleur moyen d'en contrôler l'usage. Et moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, la plupart des systèmes dont on parle, là, un système de vélo comme celui du Vélib, vous avez un site web qui vous donne l'état de fonctionnement. Donc, c'est de moins en moins compliqué de réutiliser de manière sauvage ces données. Et c'est une réalité. La réutilisation sauvage des données, c'est une réalité. La meilleure API qui existe sur les horaires de bus en Belgique, ça s'appelle IRAI. C'est une API non officielle. À Montpellier, ça s'appelle... Apitam, c'est une API non officielle. En Suisse, ça s'appelle transport.ch, c'est une API non officielle. Enfin bon, en gros, tous ces exemples-là montrent juste quoi ? C'est qu'en gros, à mon avis aujourd'hui, la réutilisation sauvage, elle est bénéfique pour personne. Elle est bénéfique ni pour celui qui se voit, entre guillemets, pirater ses données, parce qu'il ne sait pas ce que ça va donner derrière, qu'une fois que c'est récupéré, et on n'en sait foutrement rien de ce qui se passe. Mais ce n'est pas non plus bénéfique pour celui qui réutilise les données comme ça, parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut en faire. Quand vous ouvrez vos données, vous mettez une licence, ça veut dire que vous donnez les règles du jeu. C'est quand même hyper important, je trouve, aujourd'hui, qu'on soit capable de dire, voilà, je te donne des données, mais tu peux faire ci, mais tu ne peux pas faire ça. Tu peux, as le droit de faire ça, mais tu dois mentionner la source. Tu dois remettre au pot commun ou pas. Et ça, c'est vraiment, je trouve, moi, un argument aujourd'hui de dire, voilà, la réutilisation sauvage, ce n'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Voilà.
Sur ce point, moi, j'ai mon cas du complot allemand. Alors, moi, j'avais ma théorie du complot allemand qui était, j'ai découvert un site qui s'appelle Un train de retard. L'URL doit être untraindretard.fr, qui est un truc qui m'a fait halluciner. Quoi. J'arrive, je vois un espèce de compteur, un site ultra bien fait, avec un compteur qui vous dit chaque jour en France, il y a 20, disons qu'il y a, je sais plus, 2 ou 3 000 heures de retard dans les trains en France. Le site réutilise les données d'un des sites de SNCF qui donne les heures d'arrivée, voilà, c'est Infoline, voilà, qui va chercher les données d'Infoline, qui les réutilise de manière sauvage et qui en fait un usage qui est ultra bien fait, qui est une forme rhétorique idéale dans laquelle vous avez, vous voyez le nombre d'heures de retard et là vous pouvez dire à la SNCF c'est complètement scandaleux ce que vous faites, alors qu'en réalité la SNCF commence à faire quelques opérations, ils commencent à afficher quelques données, notamment les TER. Ils disent 95% des TER arrivent à l'heure et après il y a quelques retards et on vous explique pourquoi. Moi je pense que la SNCF a tout à fait intérêt à libérer ses données sur cette question-là parce que en laissant un site comme Un train de retard, alors moi je vous explique pourquoi j'ai parlé de complot allemand, parce que j'ai essayé de chercher du coup qui a fait ça. Alors je suis allé regarder, moi j'étais sûr que c'était la Deutsche Bahn et du coup, parce que c'était en noir et rouge, et donc c'est les couleurs de la Deutsche Bahn, et en plus je sais qu'il y a les concurrences européennes qui étaient en train d'arriver. Et puis après, moi j'ai un rendez-vous pour ma thèse avec les gens de la SNCF, et puis j'attendais en bas, et en fait je regardais le magazine de la SNCF, et sur le magazine de la SNCF, il y avait la photo du PDG de la Deutsche Bahn qui disait « Les amis de la SNCF, ce sont nos amis », et donc ils disaient qu'en gros, ils voulaient travailler de concert, et donc ils m'ont dit qu'ils ne savent pas à l'heure actuelle qui a fait ce site. Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête. J'ai regardé dans ce qu'on appelle un whois. Dès que vous avez une adresse, untraindretard.fr, vous pouvez aller regarder qui a déposé le nom de domaine. Et en fait, c'est un développeur freelance niçois qui n'est pas du tout connu des gens de l'open data, qui n'a jamais rien fait. Donc, c'est peut-être Train Italia. Tu sais ? Ouais, personne ne sait.
Il met le doute.
Et donc, la SNCF se fait. Il y a un site qui vous regardez le nombre de likes. Je crois qu'il y a 20 000 likes sur ce site. Il y a un tas de gens qui l'utilisent comme une référence pour dire en France, il y a 20 000 heures de retard et ils laissent ce site en ligne alors qu'ils pourraient eux-mêmes faire des campagnes de communication pour expliquer leur retard, arriver à faire eux-mêmes des visualisations de données. Mais en libérant les données, ils permettent aux gens de faire des visualisations de données, d'expliquer que la situation est plus complexe, qu'un retard, c'est parfois plus de 5 minutes, mais il y a plein de raisons et qu'ils ont tout à fait intérêt à l'expliquer. Plutôt qu'à laisser des usages sauvages qui sont des formes de rhétorique qui sont hyper dures et qui en plus attaquent des marchés comme celui de la SNCF. Je pense qu'il y a derrière, il y a un acteur malveillant qui essaye de. Et donc ma théorie du complot me sidère et.
Faites-le taire.
Et la licence Open Data de la SNCF, qui est une licence adaptée de l'ODBL mais qui n'est pas l'ODBL pure, mentionne qu'on ne peut pas réutiliser les données dans un service qui porterait atteinte à l'image de marque de la société. Et donc, on est exactement dans cet exemple-là de pouvoir dire je ne te permets pas de réutiliser mes données librement ouvertes pour un service qui porte atteinte à l'image de marque de la société. Après, le service existe toujours parce qu'il ne réutilise pas les données ouvertes, précisément.
En tout cas, juste en 2010, quand on a lancé nos actions en faveur de la réouverture des données publiques, on avait un argument qui marchait très bien, c'était si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Et je vois que là, ça marche toujours assez bien.
Sachant ça, pour ajouter une expérience, c'est quand on parle d'open data avec les collectivités, c'est vrai que c'est une peur en se disant qui va réutiliser, comment ça va être utilisé, ça va faire le jeu de l'opposition, ça va donner une mauvaise image de mon territoire. Donc c'est vrai que c'est finalement ce qu'on dit là, c'est assez intéressant, c'est qu'effectivement, si on n'y passe pas, on prend le risque que des autres y passent à notre place. Pas de la façon dont on aimerait que ça soit fait.
Et pas forcément l'opposition, mais
oui, pas forcément l'opposition, pas celle qu'on croit. Mais c'est souvent, voilà, c'est le premier exemple qui est donné. Et donc du coup, effectivement, on peut imaginer qu'en étant proactif, finalement, ça réglerait le souci. Alors c'est peut-être des fois un peu facile de dire ça, mais c'est, je pense, un point assez intéressant à soulever.
Pour revenir sur la manipulation des données ou l'utilisation des données, on n'a pas trop parlé, je pense, au début. On n'a pas reprécisé quelles étaient réellement les obligations des collectivités en fait, sur les données, où j'ai raté l'info. Par exemple, je vais à la mairie de Poitiers, je demande la liste des prénoms 2012. On me les donne, mais sur papier, c'est-à-dire qu'on m'imprime la liste des prénoms. Si je demande cette liste sur un format numérique, on me refuse. Est-ce qu'ils ont le droit ? C'est légal ?
Loi CADA, c'est vous avez un droit d'accès et de réutilisation, mais ça ne dit pas et de consultation. Ça ne dit pas du tout si on doit vous le fournir sur une clé USB, en Excel, en CSV ou vous l'imprimez.
Je croyais que Inspire, justement, qu'il y avait une des directives qu'on devait donner la donnée dans le format dans lequel on l'avait. Donc si l'on format électronique.
Non. Inspire, c'est données environnementales.
D'accord.
Et là, on est dans des cas du donné d'état civil. Ce que la réponse que vous a fait la mairie est tout à fait légale. Moi, je peux aller voir la ville de Rennes en disant je veux savoir qui occupe l'espace. Parce que tous les ans, il y a une place à Rennes où il y a plein d'occupations du domaine public. La fête des écoles, le marché de Noël et tout. Puis il y a aussi des fois Nike qui vient présenter ses nouveaux produits ou Peugeot qui vient présenter les nouvelles voitures. Bon. Donc je peux aller voir la ville en disant je voudrais savoir à qui tu donnes l'accès au domaine public, à cette place-là. Combien ils payent pour l'occuper, ce truc-là ? Bon. Et la ville peut très bien me dire, très bien, monsieur Chignard, venez le 12 mai à 10h15, et puis je vous montrerai. Point. Elle a répondu tout à fait à la loi. La loi, c'est ça.
D'accord.
C'est pas moins que ça, mais c'est pas plus non plus. La loi, aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu du projet de loi aussi de décentralisation, enfin l'acte 2 autour de ça, c'est de dire, ça suffit pas que de dire, ok, tu as un droit d'accès, mais en fait, tu sais pas trop comment l'exercer, c'est compliqué. Je vais même plus loin. Là, on a récupéré des données pour faire cet atelier sur les prénoms. Si jamais on avait eu quelqu'un qui disait non, je ne vous les donne pas, il aurait fallu faire une demande officielle auprès de la mairie avec un courrier tout à fait officiel pour le faire. Et puis, au bout de 3 semaines à peu près, vous auriez été en droit de faire un courrier à la commission d'accès aux documents administratifs qui, elle, n'a pas de contraintes, régulièrement se fait condamner par l'Europe, mais n'a pas de délai pour vous répondre. Donc, en moyenne, elle va vous répondre en 2 ou 3 mois. Elle va donner un avis. Et donc l'avis, en l'occurrence, puisque la loi est ainsi faite, que vous aurez raison, donc la CADA dira, oui, ils ont raison de demander ça, et donc il y aura une copie qui sera enverrée à la mairie de Poitiers qui dit, oui, nous, CADA, on dit que vous devriez le faire. Mais la CADA étant une autorité administrative qui n'a pas de pouvoir coercitif, soit la mairie dit, oui, ok, d'accord, j'accepte, soit la mairie dit, ah ben non, je continue à dire que je n'ai pas à le faire. Donc vous allez au tribunal administratif, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord, voilà. Tout l'enjeu, c'est de changer un peu le circuit que j'ai listé.
Je le fais vite. Il y a un truc très rigolo, c'est que tous les avis de la CADA, il faut payer pour y accéder. C'est une des données soumises à redevance.
Voilà, comme quand on en apprend tous les jours, je trouve ça énorme. Ouais, ok. Il y a aussi une chose, c'est que la 78, ça fait 34 ans quand même. La CADA 2005, donc ça fait 7 ans. Il y a 30 ans, concrètement, si vous vouliez accès à une donnée, il y avait de grandes chances qu'elle soit écrite sur des fiches papier, peut-être sur ordinateur, parce que je ne connais pas bien l'histoire de l'administration française. Mais je pense qu'elle était principalement sur papier. Enfin, quand je parle aux archives de Rennes, ils ont du papier à foison, même s'ils numérisent tout maintenant. Donc la loi, elle a son côté, c'est consultable, mais parce que c'est cohérent avec l'état concret de ce qui pouvait être fait à l'époque. Aujourd'hui, vous cherchez n'importe quel sujet sur Google, Wikipédia, Yahoo, ou ce que vous voulez, vous allez trouver un tas de données. Et ça, ça a changé. Ça, c'est radicalement différent de ce qu'il y avait en 78. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les lois, il faut qu'elles évoluent, il faut qu'on aille plus loin, etc. etc. quoi. Les moyens ne sont plus les mêmes, il faut adapter la loi aux moyens. On a peut-être aujourd'hui la vraie chance d'avoir réellement un accès aux données, pour de vrai, et pas juste théorique.
En fait, c'est un effet collatéral du Minitel. J'explique pourquoi. En France, dans les années 70, il y a aux États-Unis, se posaient les mêmes questions que pendant... Donc c'est 78, la loi CADA, je n'étais pas sûr. Tu plantais au grand oral sur la question de la CADA. Il y avait cette loi de 78 et il y avait les mêmes débats aux États-Unis. Il y avait des fournisseurs de services informatiques qui disaient on veut ces données, on sait que ça a de la valeur. Et il y a eu un lobbying très intense qui a fait qu'aux États-Unis, il y a très très peu de droits sur les données publiques et elles sont libérées par défaut. En France, on avait ce projet du Minitel qui était en train d'avancer, et dans les années 80, le Minitel, c'était quelque chose d'important qui rapportait beaucoup de services, qui fait que maintenant Free existe parce que c'est des services qui émergent du Minitel. Il y en avait un, c'était 3615 ULA. Mais il y en avait d'autres qui étaient les résultats du bac. Et vous pouvez toujours aller regarder les résultats du bac sur le Minitel. Enfin, vous ne pouvez plus cette année parce qu'il n'y a plus de Minitel. Mais en tout cas, ça marchait jusqu'à très récemment. L'idée, c'était qu'à cette époque-là, avec ce système du 3615, on pouvait se faire de l'argent. Et en France, du coup, on a mis plein de restrictions sur la réutilisation des données et on les a mis dans la loi de 78. Et du coup, c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités des administrations, parce qu'on a donné plein d'injonctions contradictoires. Donc il y a eu cette loi 78, il y a eu vous allez vous faire plein d'argent grâce aux données, ça va être une source de revenus monstrueuse. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que oui, ça rapportait un peu d'argent, mais pas vraiment beaucoup. Et après, il y a eu au début du mandat de Sarkozy, il y a eu la création de l'APIE, l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'État, dans laquelle on a dit vendez vos données, vendons tout ce qui est immatériel, ça a plein de valeur et ça va rapporter plein d'argent à l'État. Et puis en fait, à la fin du mandat, il s'est dit bon, faut qu'on fasse un gros coup de com, et donc on va faire ça, on va lancer data.gouv.fr en janvier avant les élections, et donc on va faire de l'open data. Et donc dans un même mandat, on a fait des injonctions qui étaient complètement contradictoires. Vendez vos données et donnez-les de manière gratuite. Donc à l'heure actuelle, faut comprendre que en France, on a d'une certaine manière un peu de retard, mais en tout cas on a pris conscience depuis très longtemps de la valeur de ces données publiques. Maintenant, il s'agit d'inverser la démarche pour que ces données publiques soient ouvertes.
Ce que vous dites, c'est même pire, parce que là, dans un même colloque, dans la même semaine, l'API expliquait comment l'État allait faire de l'argent, et d'un autre côté, d'autres services de l'État montaient l'AB, enfin le truc pour avoir des données gratuites, donc c'est la schizophrénie. Mais juste pour dire, c'est aussi un problème quand même culturel, il n'y a pas qu'un problème... Parce que, entre nous, il y a un exercice qui est très amusant, enfin, je pense que vous l'avez déjà fait. Regardez toutes les villes qui sont en avance sur l'open data en France. On est bien d'accord, je ne vais pas parler de données, mais culturellement. Regardez comment vous accédez aux délibérations des 10 conseils municipaux des collectivités concernées. C'est à mourir de rire, ou à pleurer. Rennes, pareil, Nantes, Montpellier, etc. Donc, je veux dire que il faut pas que. C'est un mouvement de fond. Je crois qu'on est dans une première phase. Là, on est d'accord que les délibérations, c'est pas. On peut le considérer comme pas de la donnée, mais quelque part, on est bien d'accord que quand on va dans les pays nordiques, regardez comment vous accédez, y compris aux feuilles de déplacement des ministres. Quels sont les coûts de remboursement, etc. Et je pense qu'il y a aussi un problème culturel. Pour oublier, si jamais tout ce mouvement aussi, c'est quand même l'Europe qui l'a poussé. Il y a quand même la transposition de directives européennes qui est quand même à l'origine de ce mouvement. Je pense que culturellement en France, on n'est pas sur une posture naturelle de partage, que ce soit des données ou des informations publiques au sens plus large.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Par contre, j'ai envie d'être optimiste pour changer un petit peu. Nous, on s'est rendu compte d'une chose, que ce soit avec Keolis ou la bibliothèque, puisque c'est les deux acteurs avec lesquels actuellement c'est dans nos cartons, on s'est rendu compte que finalement, ils se rendent compte que mine de rien, après coup, après avoir fait ces choses, eh ben c'est positif pour leurs agents. Ils les appellent les agents. Positif pour leurs agents parce qu'ils se rendent compte que finalement leur peur n'était pas justifiée. Se retrouvent même. Leur travail est mis en valeur. Et donc finalement, ils sont contents. Alors, je sais bien, je suis plutôt pessimiste en général. Mais pour le coup, je sais que quand quand ça avance, quand les données sont ouvertes, que les gens réutilisent, il y a vraiment un effet de levier positif et d'engouement qui est vraiment très, très agréable et positif pour tout le monde. Soyons un peu optimistes de temps en temps
je reprends la parole.
Entre nous.
Ça serait génial de terminer sur cette note d'optimisme, j'aime beaucoup. Néanmoins, bon, je suis poli, je vais laisser, on va bientôt conclure. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un qui aurait éventuellement une remarque avant de conclure ces échanges et cette journée? La question peut venir aussi d'en face.
Non, juste sur cette question de la transparence, je suis un petit peu plus mitigée parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à penser qu'on a toujours un train de retard en France. Et quand même, la loi CADA, je crois que c'était quand même la seule à l'époque où il y a très peu de pays européens qui l'avaient. Non, je me trompe peut-être, oui. Ouais, en tout cas, quand je m'étais un peu penchée sur la question, moi j'avais plutôt eu l'impression qu'on avait une certaine conception en France de la transparence qui n'est pas nulle, qui n'est pas la même que les anglo-saxons, parce que du côté des des anglo-saxons, elle est tirée par une vision assez libérale aussi, voilà, qui donc c'est pas les mêmes objectifs et les mêmes finalités. Mais il me semble qu'en France, elle est pas complètement nulle, voilà, mais qu'en revanche, c'est vrai qu'elle se dote ou elle se pare d'un certain nombre de voilà, peut-être de contradictions.
Non, je suis d'accord. Moi, je déteste ce discours sur le retard de la France. C'est un truc qui me fait un peu mal au ventre. En fait, à l'époque, transparence égale consultation. Et juste si on pouvait consulter, le simple fait d'aller consulter, c'est un peu, je sais pas, vous voyez, il y a une scène, je crois, dans Citizen Kane où il va aller regarder dans une espèce d'immense archive. Et donc vous rentrez, on vous donne la clé, et on vous enferme, vous regardez le document, vous prenez des notes sur un bout de papier, et puis vous repartez. Mais c'était de la consultation, mais pas de la réutilisation. Et la réutilisation à l'époque, c'était quelque chose qui pouvait rapporter de l'argent, mais qui n'était pas une question de transparence ou de qui n'était pas une question politique, qui était juste une question économique et qui allait rapporter de l'argent aux collectivités et à l'État. Et donc c'était juste on était dans un contexte qui était différent, on avait le Minitel, il y avait la télématique, on se faisait de l'argent avec ça, et c'était normal.
Mais il y a quand même, je pense, une culture d'une forme de transparence, en tout cas liée à l'information publique, et le portail servicespublic.fr est un des premiers portails européens.
Ouais, non, je pense pas qu'on est en retard du tout là-dessus. Et la France, et il y a un classement européen de l'open data qui est tenu par EPSI, qui est le service qui est en charge de l'application de la directive sur l'information du secteur public en Europe, et qui a classé la France numéro 1 de l'open data en Europe. Et donc, bravo.
En Europe.
Voilà. On ne gagne plus en sport, mais au moins on gagne un peu en open data. Non, on gagne aussi parce qu'on a beaucoup de conférences open data, c'est un des critères. On en a énormément. Fait que Simon fait le Tour de France.
Vous êtes tous des statistiques.
On pourrait peut-être finir sur la Marseillaise ou quelque chose comme ça. Je pense que ce serait sympa.
Non, c'est vrai. Moi, le retard de la France, mon souci, c'est que comme je suis très local, je suis beaucoup sur Rennes. C'est vrai que parfois, je suis très critique. Donc, je peux comprendre aussi que ce ne soit pas toujours agréable. C'est marrant parce que ce midi, c'est ce que les gens m'ont dit. Mais arrêtez de vous plaindre. Vous avez une API pour vos transports, tout ça. Ah oui, effectivement, on a quelques. Enfin voilà. Donc c'est très inégal, c'est très difficile de comparer, c'est très difficile d'avoir déjà une vision d'ensemble. Moi, ce que je sais, que j'aimerais bien arriver à un jour de manière plus fréquente, je crois que c'est la ville de Boston ou Chicago qui a pas très longtemps s'est ouvert un compte sur GitHub et a mis toutes ses données sur un espace centralisé de gestion de sources. Et les sources, c'est quoi? C'est des fichiers à plat, des TXT, des CSV, des machins. Donc toutes ces données, finalement, sur un espace où il y a déjà plusieurs millions de développeurs sur cet espace. Mais des millions, partout dans le monde. Et donc, voilà, il y a une logique, il y a des choses d'initiative. Est-ce qu'on est en avance, en retard? Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des gens qui font des trucs vachement cool et que j'aimerais bien avoir la même chose. Et il faut tirer vers le haut. Je pense que ce qui est important, plus que critiquer, c'est tirer vers le haut.
Et à Poitiers aussi, on aimerait bien. Bon, on en est loin encore.
On espère.
Ok. Est-ce que éventuellement il y a une dernière question rapide, juste par politesse. Sinon, je vais me permettre de conclure un petit peu cet échange en remerciant les intervenants qui sont décidément d'une grande qualité. Donc pour juste conclure, rappeler finalement notre existence, hein, ce collectif, où finalement voilà tout ce qu'on a parlé, c'est des questions qui nous intéressent, qu'on se pose en ce moment un peu tous les jours. Bon, avec une organisation d'un événement comme celui-là, c'est normal. On sera comme les personnes qui vous ont répondu aujourd'hui à votre disposition pour toutes les questions qui peuvent se poser, qu'elles soient effectivement juridiques, techniques, voire philosophiques sur la question. De ne pas hésiter à nous consulter, que vous soyez entreprise, collectivité, simple citoyen, association, puisque tous ces publics-là nous intéressent dans cette démarche. Et voilà, finissons juste pour vous remercier d'être venu et d'avoir participé comme cela, en espérant qu'on a répondu à des questions et que vous viendrez nous en poser d'autres, peut-être plus complexes, une prochaine fois. Sur Google, on a un site internet, on est sur Twitter, on a une... Hein ? opendata-poitiers.fr et vous trouverez toutes les informations à ce sujet. On a une lettre ouverte à signer, on continuera à faire des événements comme celui-là et on se réunit tous les premiers mardis du mois au CRIJE, rue Gambetta, pour continuer d'animer ce collectif. Et de discuter avec toutes les personnes qui veulent bien se présenter à nous, tout simplement. Quelque chose d'assez ouvert, d'assez sympa, et pas de prise de tête, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses, et on avancera tous ensemble, tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous laisse aller ingérer ce lot d'informations, de données, tranquillement.